Mémorable. Archive. Francis Ponge s'entretient avec Philippe Solers. Dernier d'une série de 5 entretiens de 1988.
Francis Ponge, nous avons essayé de parcourir dans vos textes une constellation qui est à la fois une constellation d'écriture, la position du texte, la position du scripteur, la position du lecteur, et une position que nous avons appelée cosmogonique, qui est celle joignant le fonctionnement du monde tel qu'il est créé dans vos textes par une sorte d'utopie permanente, de fiction permanente, mais en relation avec ce texte qui s'écrivant, de telle façon que nous avons parlé d'une disparition concomitante des choses du monde verbal et de celui qui se trouve à leur intersection. Je me rappelle une de vos expressions, vous m'avez dit souvent que, au fond, l'homme était là dans une sorte d'agonie, qu'il s'agissait simplement de surveiller cette agonie et de la surveiller de façon rigoureuse. Vous avez dit comment chaque chose, chaque élément du monde dit concret représentait une sorte d'erreur dans cette cosmogonie, mais en même temps de perfection achevée de cette erreur. Et je crois que ce qui a été important, ça a été de souligner comment le langage, la parole, l'écriture se présentait à vous dans une fonction à la fois érotique et mortelle. C'est-à-dire que vous n'avez jamais passé sous silence le rôle profondément sexuel de l'écriture. C'est-à-dire que dans une fonction qui serait celle permanente, incessante de la mort et de la reproduction, de même que la parole se perpétue dans l'espèce humaine, passe d'un individu à l'autre et d'une société à l'autre, de même, vous avez essayé de placer vos textes à ce croisement, à cette espèce d'effervescence de la reproduction et de la mort. Je voudrais que nous insistions, si vous voulez bien, sur l'aspect matérialiste d'une telle conception. Parce qu'il me semble que c'est cette conception matérialiste qui vous distingue absolument du contexte culturel de la littérature idéaliste et bourgeoise en général. Il me semble que c'est là une des choses les plus difficiles dans l'approche que nous pouvons faire de vos textes. Et je voudrais savoir si vous seriez d'accord avec l'expression « un matérialisme sémantique » qui a été employée à propos de vos textes. De ce matérialisme sémantique, il me semble que un texte comme « Le Pré » apporte la plus éclatante confirmation.
Oui. Le sujet, si vous voulez, de mon matérialisme... J'ai déjà pu dire combien les mots, les expressions verbales me semblaient une réalité concrète comportant toute l'évidence et l'épaisseur des choses du monde extérieur. Il s'agit donc en effet d'un matérialisme sémantique, puisque l'histoire des mots, de leur étymologie, des variations de signification qu'ils ont connues depuis qu'ils sont apparus dans le langage humain et même dans des langues antérieures à la nôtre, enfin par exemple dans le latin avant d'être dans le français, c'est bien cela, n'est-ce pas, la sémantique, l'histoire des significations variées qu'un mot a pu prendre au cours de son histoire. Alors tout cela, comme les personnes ont des ancêtres, comme les mots ont aussi des ancêtres, et ils ont un arbre généalogique, enfin, qui est représenté souvent par les associations d'idées qu'ils provoquent, n'est-ce pas, chez le lecteur, et de tout cela, je tiens compte, il m'est arrivé de dire que le comble pour un texte serait que chacun des mots qui le compose puisse être pris dans chacune des acceptions successives que le mot a eu au cours de son histoire. Un texte ainsi compris est naturellement susceptible de plusieurs niveaux de signification. En ce qui concerne l'éros et la mort, et ce que vous appelez l'agonie, c'est un mot en effet que j'ai employé, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait mourir pour donner naissance à quelque chose ou à quelques personnes. Mais je ne suis pas le premier à avoir conçu que la naissance du texte ne pouvait avoir lieu que par la mort de l'auteur. L'acte sexuel, l'acte de reproduction exige aussi la présence d'un autre. Eh bien, comme dans l'espèce, il faut que les deux meurent plus ou moins, n'est-ce pas, pour que la troisième personne, ici le texte, puisse naître. La deuxième personne, quant à moi, enfin, c'est évidemment la chose, l'objet qui provoque le désir et qui, lui aussi, meurt, si vous voulez, dans l'opération qui consiste à faire naître le texte. Donc, il y a mort à la fois de l'auteur et mort de l'objet du désir, mettons, de la chose, du prétexte de l'objet, pour que puisse naître le texte. Vous avez évoqué un de mes derniers textes paru sous le titre « Le Pré ». Peut-être puis-je prendre l'exemple un peu de ce que nous venons de dire, en effet. J'ai d'abord eu une émotion me venant d'un pré. J'ai commencé à vouloir éterniser, si vous voulez, en quelque façon, par un texte, cette émotion, la garder en moi et pour moi, écrire cela de peur de ne pas le retrouver. Très vite, je me suis aperçu que ce mot, le mot lui-même, prêt, qui revenait dans mes notes, m'a semblé par lui-même non seulement intéressant, mais enfin a été pour moi comme une espèce d'obsession, le mot. Et ce mot, je n'ai pas pu faire autrement que de le retrouver à chaque instant dans les paroles que je disais ou qu'on me disait. Pourquoi ? Parce que ce monosyllabe « prêt » est aussi constamment dans la bouche des Français qui parlent. Alors je suis allé au dictionnaire pour voir un peu ce que c'était que ça, le « prêt ». Et je me suis rendu compte rapidement que c'était en effet une des racines les plus importantes existantes en français. Pourquoi ? Parce que le pré, alors le pré, la prairie, vient du latin pratum, mais je remontais plus loin. Les étymologistes latins disent que pratum est une crase, comme on dit, pour paratum, c'est-à-dire ce qui a été préparé. Poussant plus loin encore et regardant ce que c'était que pré, P-R-E-S ou que pré, P-R-E accent circonflexe T, etc., je me suis aperçu que tout cela venait d'une racine védique, la même, et que finalement, pré était un monosyllabe qui signifiait à la fois paratum, c'est-à-dire ce qui a été préparé. Et vous voyez que dans le mot préparé, il y a encore pré. Le participe passé par excellence. Ce qui a été préparé pour l'homme, probablement, enfin, par la nature, pour qu'il connaisse, mettons, un certain repos, une certaine nourriture aussi, n'est-ce pas? Puisque le pré, c'est le lieu de l'herbe, et que l'herbe, c'est le végétal à l'état élémentaire, et que nous mangeons de l'herbe, du fait même que nous mangeons du bœuf ou du mouton, hein, et que par conséquent, c'est antérieur à l'origine, c'est vraiment le participe passé de toute façon. Mais en même temps, il se trouve que ce préfixe signifie aussi tout ce qui va venir, n'est-ce pas? C'est l'avenir, ce qui précède, enfin ce qui est en avant, n'est-ce pas? Donc là, je me trouve à la racine de ce mot, tout à fait dans un contradictoire admirable, n'est-ce pas, qui représente à la fois le passé, le présent et l'avenir. À partir de là, j'ai continué à écrire mon texte et je suis arrivé à une forme de telle façon que s'y confirme à la fois le désir, c'est-à-dire l'émotion que m'a causé ce prêt, et la mort, parce que aussi le prêt est à la fois le lieu de la palabre, mais en même temps le prêt est encore autre chose. Eh bien, c'est le prêt du duel, c'est le prêt de l'action. On dit appeler quelqu'un sur le prêt, c'est le prêt de la décision, n'est-ce pas? À ce moment-là, il arrive sur le prêt deux personnages debout qui croisent ensuite en oblique leurs épées, et finalement, au moins l'un des deux tombe horizontalement sur le prêt. Il s'agit tout simplement ensuite que l'un des deux, ou les deux, s'ils se sont enferrés mutuellement, eh bien, soit enterré. Et alors, ils sont enterrés sous le prêt, n'est-ce pas? Et nous avons encore le prêt comme surface de la terre sous laquelle se trouvent enterrés les deux verticales qui peuvent représenter aussi, comme je le disais tout à l'heure, à la fois l'auteur et la chose, enfin, parce qu'il est évident que le duel est un acte d'amour aussi, n'est-ce pas, et que le résultat est la mort des deux, et seulement le prêt reste, n'est-ce pas, le prêt est là, le prêt est constitué. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire quelques passages de ce texte. En voici un, crase de paratus, selon les étymologistes latins, près de la roche et du ru, du ruisseau, prêt à faucher ou à paître, préparé pour nous par la nature, prêt, accent aigu, virgule, paré, virgule, prêt, encore accent aigu, et là c'est le préfixe, virgule, prêt, P-R-E, accent grave, S, virgule, prêt, P-R-E, accent circonflexe, T, le prêt, gisant ici comme le participe passé par excellence, s'y révère aussi bien comme notre préfixe des préfixes, vous voyez, il est toujours là, préfixe déjà dans préfixe, présent déjà dans présent. Pas moyen de sortir de nos onomatopées originelles, il faut donc y rentrer. Nul besoin d'ailleurs d'en sortir, leur variation suffisant bien à rendre compte de la merveilleusement fastidieuse monotonie et variété du monde, enfin de sa perpétuité. Et à la fin, j'en viens au tombeau, si vous voulez. Transporté tout à coup par une sorte d'enthousiasme paisible en faveur d'une vérité aujourd'hui qui soit verte, nous nous trouvions bientôt alités de tout notre long sur ce prêt, dès longtemps préparé pour nous par la nature, ou n'avoir plus égal qu'au ciel bleu. Il s'agit de l'homme qui est allongé sur le pré, mais là bien vivant. L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture, c'est-à-dire l'accent aigu, n'est-ce pas? Nous écrivons de gauche à droite, et ensuite nous revenons contradictoirement en sens inverse pour poser l'accent aigu, n'est-ce pas? L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture nous rappelle au concret. Et sa contradiction, comme je viens de dire, accentuant du prêt, la note différentielle, quant à tel prêt ou prêt ou prêt, P-R-A-I de prairie, c'est bien l'accent, accentuant du prêt, la note différentielle, sonne brève et aiguë comme une déchirure dans le ciel trop serein des significations. C'est qu'aussi bien le lieu de la longue palabre peut devenir celui de la décision. Des deux pareils, si vous voulez, ce sont les deux pères, P-A-I-R-S, enfin les deux gentilshommes, n'est-ce pas? Des deux pères, pareils, arrivés debout. l'un au moins, après un assaut croisé d'armes obliques, demeurera couché, d'abord dessus, puis dessous. Voici donc sur ce pré l'occasion, comme il faut, prématurément, d'en finir. Messieurs les typographes, placez donc ici, je vous prie, le trait final, puis dessous, sans le moindre interligne, couchez mon nom, pris dans le bas de caste, naturellement, sauf les initiales, bien sûr, puisque ce sont aussi celles du fenouil et de la prêle qui demain croîtront dessus. Ici, un trait horizontal et ma signature immédiatement là-dessous. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que la signature, c'est l'auteur couché, dont seulement les initiales percent la terre, comme percent la terre les herbes enfin, qui composent le pré.
Je voudrais que nous en venions maintenant, si vous voulez bien, au savon. Vous m'avez dit une fois que le mot savon n'était pas si éloigné du mot savoir et que par conséquent, cette toilette intellectuelle, comme vous dites encore, que vous essayez de proposer avec ce texte, fait communiquer le savon avec le savoir et qu'il s'agirait peut-être en effet de nettoyer et de décaper ce savoir ancien auquel nous nous heurtons toujours lorsque nous voulons accéder au fonctionnement du texte. Je note deux choses. Je note d'abord que depuis un certain temps, les métaphores techniques qui reviennent le plus souvent dans vos textes sont des métaphores astronautiques d'une certaine façon. Autrement dit, là, il y a comme un effort d'introduire, à la fois dans le texte et dans l'imagination du lecteur, une nouvelle conception de l'espace et de la révolution de l'homme par rapport aux objets, des objets par rapport à l'homme et des deux ensemble par rapport à l'écriture. Vous avez souvent dit, vous avez toujours répété qu'il était plus important finalement qu'un objet textuel fonctionne plutôt qu'il ne signifie. Dans le savon, vous arrivez à concevoir que les objets, quels qu'ils soient, les formes du monde matériel, se comportent comme une écriture. C'est-à-dire que quand vous écrivez par exemple, la production de son propre signe, devenant ainsi la condition de l'accomplissement de quoi que ce soit. Oui, oui, c'est bien ainsi qu'il faut concevoir l'écriture, non comme la transcription, selon un code conventionnel, de quelque idée, extérieure ou antérieure, mais à la vérité comme un orgasme, comme l'orgasme d'un être, ou disons d'une structure déjà conventionnelle par elle-même, bien entendu, mais qui doit pour s'accomplir, se donner avec jubilation comme telle, en un mot, se signifier elle-même. Là, je crois que nous arrivons à une définition qui me paraît tout à fait capitale.
Ah oui, ce savon. Il est sûr que j'ai été récemment mis en contact, d'abord par mes lectures, aussi bien des journaux, des télégrammes annonçant les mises en orbite, les expéditions de fusées dans l'espace intersidéral, d'autre part par le fait que j'ai commencé à faire de grands voyages et employant les moyens les plus modernes, c'est-à-dire en Boeing ou en caravane, n'est-ce pas, j'ai été rendu sensible à des moyens de transport rapides et tout à fait modernes. Il se trouve que le premier texte que j'ai pu écrire, enfin en rapport avec ce fait que ma sensibilité a appréhendé ces moyens rapides de production, eh bien c'est aussi le texte que j'ai été obligé d'écrire pour préfacer, si vous voulez, mon savon, n'est-ce pas ? Et je peux le lire. Début du livre, le lecteur d'emblée soit prié. Il comprendra très vite pourquoi, nous voulons dire pour le décollage, de se doter par l'imagination d'oreilles allemandes. J'avais pensé même titrer ce petit avant-propos par l'expression « serrer vos ceintures » qu'on lit quand on se trouve en avion au moment du décollage. Les oreilles allemandes dont je prie qu'on veuille s'affubler, eh bien c'est un peu comme un casque, comme la ceinture qu'on est obligé de mettre ou le masque d'oxygène. Enfin, il s'agit de s'en affubler pour le décollage. Et ensuite, pour le franchissement de certaines perturbations, dis-je, qui est également un mot de la météorologie moderne, n'est-ce pas, destiné à l'écoute, n'est-ce pas. Et là, bien sûr, les perturbations, on ne voit plus rien, mais il s'agit à ce moment-là, dans mon texte, les passages qui correspondent à ce que j'ai dû écrire pour que ça soit dit à la radio, n'est-ce pas, et qui interviennent dans le texte, c'est-à-dire qui interrompent les notes faites pour être lues, eh bien, sont comme une sorte de perturbation, etc. Mais ceci se termine. Dès que notre savant aura été placé sur orbite, toute suggestion de cet ordre cessera, c'est-à-dire qu'on pourra alors enlever les écouteurs et serrer ses ceintures, etc., quand le savant aura été placé sur orbite, c'est-à-dire quand le texte, c'est évidemment par l'écriture, par le fait que le savant aura été écrit, qu'il aura été placé dans un monde qui ne participe plus de l'atmosphère, n'est-ce pas? C'est dit également à la fin de mon texte, fin du livre. Voici donc le livre bouclé, notre toupie lancée, notre savant en orbite, et tous les étages ou chapitres successifs mis à feu pour sa lancée peuvent bien déjà être retombés dans l'atmosphère, lieu commun de l'oubli, comme il fut celui du projet. Le savant est en orbite, le texte est en orbite, et tous les chapitres successifs qui ont été mis à feu pour sa lancée, tous les étages, sont retombés dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? C'est le lieu de la parole, c'est le lieu du souffle, de la respiration, n'est-ce pas? Tandis qu'on se trouve en état d'apesanteur, si vous voulez, au moment où on lit. Le savant est en orbite dans sa forme écrite, et il ne dépend plus, somme toute, de l'atmosphère, c'est-à-dire de la parole. L'accent est mis sur la différence entre l'écriture et la parole. Il y est mis à chaque instant dans le texte. Par ailleurs, vous m'avez posé une question au sujet du fonctionnement, n'est-ce pas? Alors, le fonctionnement, évidemment, j'ai toujours considéré que ce qui permettait à quelque chose d'exister, c'était une espèce d'imbrication très complexe des éléments de la chose qui en faisait une sorte de machine, de mécanique, d'horloge, étant entendu qu'il ne s'agit que d'éléments matériels et par eux-mêmes statiques et inertes, comme sont en quelque façon aussi les mots, si vous voulez, mais que leur agencement, la façon de les mettre en rapport les uns avec les autres, comme des rouages qui se font fonctionner quand on les met ensemble, tandis que si on ne les met pas ensemble, ben, ils sont parfaitement inertes, comme une montre qu'on a démontée. Eh bien, c'était la mise en agencement des mots, et comme je l'ai dit déjà, leur agencement au niveau des racines de ce qu'ils ont de plus matériel, au fond, et de plus concret, eh bien que c'est cela qui permettait une sorte de fonctionnement, et que ce fonctionnement alors allait se poursuivre comme une sorte presque de mouvement perpétuel. Nous retrouvons encore là l'idée de la mise en orbite, de l'éternisation des éléments par le fait qu'ils sont rapprochés d'une certaine façon et qu'ils sont agencés, ajustés, et qu'alors ils se mettent à fonctionner tout seuls, le mécanicien lui-même, le fabricant, ayant disparu. Et ensuite, je parle, comme vous l'avez cité, d'une structure déjà conventionnelle par elle-même, mais qui doit, pour s'accomplir, se donner comme telle. En un mot, se signifier elle-même. Là, il y a quelque chose d'assez difficile à expliquer, qui sort peut-être du lieu commun. C'est l'idée que toute structure, quelle qu'elle soit, est déjà, bien entendu, conventionnelle par elle-même. Il est évident que qu'il s'agisse des mots, des personnes, des machines, du monde entier, de l'horlogerie universelle, comme on la conçoit maintenant, ou si vous voulez, du fonctionnement de l'infiniment petit aussi, qu'on rapproche du fonctionnement astronomique. Eh bien, tout cela est parfaitement conventionnel dès l'origine, n'est-ce pas? Pourquoi? Évidemment, parce que c'est quelque chose qui est découpé, grillé, si vous voulez, grillé, enfin, pas grillé au sens de friture, mais grillé, c'est-à-dire soumis à une grille, comme la grille des déchiffrements par l'homme. Évidemment, ce sont nos moyens traditionnels, les figures de rhétorique et les figures de géométrie traditionnelles qui nous permettent d'appliquer une grille et de distinguer cela et de déclarer que ceci est une structure, ceci est un être, alors qu'évidemment qu'il s'agit, si nous n'avions pas ces grilles, de quelque chose de parfaitement sans forme, n'est-ce pas, informe et d'une espèce de chaos dans lequel nous ne verrions absolument rien. Donc, n'importe quelle structure, et là, je veux le dire fortement, la science, même la science de ce qu'on appelle maintenant le structuralisme et tout cela, n'est-ce pas, eh bien, cela part de quelque chose qui n'est pas du tout une certitude scientifique. Tout cela est conventionnel par soi-même. Seulement, ce qui est important, c'est que le fait même que n'importe quelle structure puisse se concevoir comme telle, et se vouloir comme tel, s'accepter, s'avouer et se déclarer hautement ce qu'elle est, c'est-à-dire avec à la fois orgueil et humilité, n'est-ce pas, comme conventionnelle par elle-même, eh bien, si elle peut trouver le signe de cela, eh bien, à ce moment-là, il y aura une espèce de transmutation heureuse, jubilante. C'est ce que j'appelle l'objoie. Il y a là une sorte de morale qui consiste à déclarer qu'il faut qu'un orgasme se produise et que cet orgasme ne se produit que par l'espèce d'aveu et de proclamation que je ne suis que ce que je suis, qu'il y a une sorte de tautologie, comme dans le poème de Malherbe, par exemple, « Il n'est rien de si beau comme Calliste est belle », et bien tout le sonnet n'est qu'une tautologie. Pourquoi ? Parce que Calliste signifie déjà, étymologiquement, la plus belle. Alors que le fait de dire « Il n'est rien de si beau comme Calliste est belle », et bien c'est une pure tautologie, n'est-ce pas ? Et tout le poème est une pure tautologie. La beauté est la beauté, ce n'est que la beauté, et il ne s'agit que de développer ça. Et de structurer cela, cette tautologie qui est au fond contenue seulement dans le nom, il s'agit de le développer dans la joie, dans la jubilation. C'est seulement donc le lecteur qui fait le livre lui-même en le lisant. Et il lui est demandé un acte qui n'est pas quelque chose comme un jeu au sens de jeu de société, mais un acte révolutionnaire, un acte qui comporte le risque de se révolutionner soi-même.
Mémorable, Francis Ponge s'entretenait avec Philippe Solers.
France Culture.
France.
Vous écoutez France Culture.
Culture.
Vous êtes sur France Culture. France Culture.
Vous écoutez France Culture.
France Culture, partenaire du Festival international du film d'histoire de Pessac du 20 au 25 novembre. Une manifestation qui propose de confronter le regard du cinéaste à celui de l'historien. Pour cette 13e édition, de grands navigateurs comme Isabelle Autissier ou Yves Parlier apporteront également leur éclairage quant à la programmation consacrée à l'homme et la mer. 13e Festival international du film d'histoire, du 20 au 25 novembre, à Pessac et dans les émissions de France Culture. France Culture vous offre des places pour ce festival. 08 92 68 10 99, touche 2. Puis rubrique place de spectacle, 0,34€ la minute. Samedi, c'est Philo. France Culture, en partenariat avec les Bibliothèques Nationales de France, vous propose 3 samedis philosophiques par an. Un cycle qui démarre demain, sous la direction de François Nudelmann, par une journée consacrée à Heidegger. La pensée de Martin Heidegger aujourd'hui, une série de conférences et débats pour faire le point sur une des œuvres les plus questionnées, les plus questionnantes du XXe siècle. Demain, de 11h à 18h, à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, entrée libre. Diffusion sur France Culture le 14 décembre dans Radio Libre à 15h.